Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM, il est 9h30, tout de suite les titres avec Thomas.
Chers auditrices et auditeurs, bonjour, voici les titres d'aujourd'hui. Le réseau Bipost est toujours perturbé ce matin, des négociations sont en cours afin de débloquer la situation. Point sur les grévistes à Liège. Dans le cadre de la semaine, a été organisé un atelier hier, le thème les LGBTQIA+, un sujet encore mal compris. Ce 11 février marque la journée internationale des femmes et des filles de science. Lumière sur une astrophysicienne et son ressenti sur la place des femmes. Depuis la semaine dernière, le réseau Bipost est perturbé par des grèves au sein des centres de distribution. Aucun colis n'a été livré ce week-end. Pour cause, Bipost réorganise ses tournées et compte supprimer 17 services à Liège. Laura Kerada, porte-parole de Bipost, nous explique les raisons de ce changement.
Le facteur ne passe plus tous les jours pour déposer du courrier dans toutes les boîtes aux lettres. Et donc pour assurer l'avenir de l'entreprise et préserver les emplois, Bipost doit s'adapter rapidement. Et c'est dans ce contexte-là que Bipost procède sur base régulière à des réorganisations. Les réorganisations, ce sont des processus d'adaptation des tournées et elles sont nécessaires.
Selon les syndicats, moins de tournées est égal à plus de travail pour certains et à des pertes d'emplois pour d'autres. Après une première discussion sans succès avec la direction, la grève s'est étendue ce lundi matin au centre de tri de Liège situé à Awance. Morgane Pérez nous délivre les revendications des grévistes.
Tous les camions de poste sont garés, un piquet de grève bloque le centre de tri d'Awan, le noyau de Bipost à Liège. Les grévistes contestent cette réorganisation de leur travail. Christophe Romain, délégué permanent de la Confédération des syndicats chrétiens.
Ici, ils sont en train de détruire le travail du facteur. Certains facteurs prennent 1000 boîtes supplémentaires à ce qu'ils avaient déjà. Si une tournée faisait 8 km, ben, elles vont en faire 15. À un moment donné, il faut qu'on se fasse entendre et correctement, il faut qu'eux aussi comprennent qu'on travaille avec des êtres humains, donc il faut qu'ils soient ouverts à la concertation.
Pas de colis, pas de lettres, ni de publicité. Sans le centre de tri, le réseau Bipost liégeois se retrouve à l'arrêt. Des travailleurs sont sur place et se réchauffent auprès du feu. Ceux qui ne craignent pas une surcharge de travail redoutent au contraire une vague de licenciements.
Normalement, les réorganisations qu'on faisait, il y avait toujours des tournées qui sautaient, comme on dit chez nous, qui dit perdre beaucoup de tournées. Ça va être à la fin perte d'emploi. Même s'ils disent qu'il n'y aura pas de licenciement, à la fin, il devra avoir des licenciements parce qu'il y aura des gens justement qu'ils n'auront plus de travail.
Les syndicats sont catégoriques. Plus rien ne sortira tant qu'ils ne seront pas entendus. Le mouvement est même appelé à s'étendre s'ils ne parviennent pas à trouver de compromis avec la direction.
La direction rassure en ce qui concerne les licenciements, aucun licenciement sec n'est prévu. Des contrats protègent leurs travailleurs. Par contre, les grévistes sont sûrs d'une chose, les contrats qui prendront fin ne seront pas renouvelés et les départs à la retraite ne seront pas remplacés. Une réunion sur la question est en cours à Bruxelles, mais les syndicats ont peu d'espoir. Le CEO de Bipost, Chris Peters, a confirmé qu'il ne comptait pas changer d'avis. Ce matin à 8h, la phase de marche à blanc du tram a débuté à Liège. Pendant 2 mois, les trams circuleront de manière beaucoup plus fluide et fréquente pour permettre aux conducteurs de s'habituer à la ligne. Le TEC rappelle quelques consignes de sécurité pour les autres usagers. Le tram a toujours priorité et il est silencieux. Il faudra donc faire très attention. Hier soir se tenait un atelier sur le thème des LGBTQIA+. Rappelez-vous, nous vous en parlions hier, l'activité se tenait dans le cadre de la semaine. Dans tous les nouveaux locaux d'HEC, l'ambiance était à la déconstruction du genre. Célia Hélas.
Lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, ces termes vous semblent peut-être faciles à définir, et encore. Mais qu'en est-il du QIA et du plus qui constituent l'ensemble des LGBTQIA+. L'un des objectifs de cet atelier était de mieux comprendre ces mots et leur sens, comme nous l'explique Véronique Colson, psychopédagogue et animatrice de l'atelier.
L'idée c'était de pouvoir distinguer ce qu'est l'identité de genre, l'expression de genre, de distinguer avec le sexe biologique et les attirances affectives et sexuelles, qui sont des choses complètement différentes.
Un atelier demandé par les étudiants pour les étudiants il y a 2 ans au service qualité de vie des affaires étudiants.
C'est une activité qui n'arrive pas souvent et qui est très particulière et qui du coup va alimenter beaucoup mes études et ma pratique. Du coup c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de se renseigner.
Au planning, savoir associer son terme à sa définition, mais surtout questionner ses propres stéréotypes sur le genre et l'orientation sexuelle.
Il y a encore très souvent l'idée que ce serait un choix. Donc que l'identité de genre ou l'orientation sexuelle serait choisie par la personne alors que pas du tout. Parce que du coup on se dit quand est-ce que vous choisissez d'être hétéro, quand est-ce que vous choisissez d'être cisgenre, ça n'a aucun sens.
Véronique Colson constate une évolution à double sens dans la compréhension et l'acceptation des identités LGBTQIA+ ces dernières années.
D'un côté, il y a une évolution et parfois on se demande s'il n'y a pas un retour en arrière chez certains jeunes ou certaines personnes. Mais je pense qu'on est tous influencés par son milieu familial et tout dépend de qui on côtoie. Et parfois, ça se ressent énormément sur l'ouverture ou à l'inverse, la fermeture des personnes.
Ces animations et formations sont organisées par Pixiel, la fédération des jeunes LGBTQIA+, en Belgique francophone.
Merci Célia, nous te recevons désormais en plateau afin de nous parler des dernières mesures prises par le président Donald Trump et on peut dire que ces dernières heures n'ont pas été de tout repos pour les Américains.
Une atmosphère beaucoup moins propice à l'inclusion règne aux États-Unis. L'armée de Donald Trump suspend le recrutement de toute personne transgenre. Les transitions de genre sont également interdites pour les militaires. C'est un retour en arrière dans la législature. Trump avait déjà fait passer la loi sous son premier mandat, mais Biden était revenu sur cette décision. Trump qui menace également de laisser l'enfer éclater si le Hamas ne libère pas les derniers otages. Il proposerait même d'annuler le cessez-le-feu en négociation actuellement si sa demande n'était pas respectée. En effet, le groupe terroriste a annoncé suspendre toute nouvelle libération après le compte-gouttes des otages libérés.
Est-ce qu'il y a eu d'autres mesures qui ont été prises ?
Alors oui, les tortues n'ont qu'à bien se tenir. Un décret a été signé hier par le président américain afin de revenir sur la décision d'interdire l'utilisation des pailles en plastique. Climato-sceptique autoproclamé, Trump demande aux membres de l'administration de se débarrasser des pailles en papier qu'il juge trop peu pratiques. Et pour finir, Donald Trump impose une taxe de 25% sur les droits de douane, sur l'acier et l'aluminium. Cette décision jugée disproportionnée par certains experts s'appliquera à tous les pays sans exception dès le 12 mars.
Une décision qui ne manquera pas d'impacter à l'international. Merci Célia. La Belgique serait de plus en plus corrompue, c'est en tout cas ce que laisse penser l'IPC, l'indice de perception de la corruption. Publiant depuis 30 ans un compte-rendu annuel, Transparency International a annoncé son nouveau classement ce matin. Comment se porte la Belgique, me direz-vous ? Eh bien, elle se retrouve en 22e position avec un score de 69 points sur 100. C'est 4 points de moins que l'année passée. Les différentes affaires de corruption ayant eu lieu en 2024, comme celle du blanchiment d'argent via la loterie nationale par l'ancien ministre Didier Reynders, ont certainement eu un impact sur le score belge. La future reine de Belgique donne son nom au nouveau projet en énergie verte du pays, l'île énergétique Princesse Elisabeth. Il s'agit d'une plateforme de 5 hectares qui sera placée dans l'eau de la côte belge et qui sera connectée à des parcs éoliens et à d'autres pays. L'île est vouée à devenir une réelle centrale électrique. Les coûts de ce projet s'élèvent à 7,5 milliards d'euros et il devrait aboutir en 2026. Des engagements pour lutter contre la pollution au PFAS ont été pris dans le Hainaut. La ministre de la Santé Yves Copieters l'a affirmé hier soir. La communication à ce propos sera renforcée, un monitoring des PFAS sera mis en place dans les zones contaminées et des investissements seront faits dans des infrastructures de traitement et de distribution de l'eau. Ce 11 février marque la journée internationale des femmes et des filles de science. Saviez-vous qui détient le record de découverte de comètes et d'astéroïdes ? Ou qui a encore révélé l'organisation complexe des populations stellaires ? Ou encore qui a percé les secrets des forges stellaires, bouleversant ainsi notre vision de l'univers ? La réponse à toutes ces questions, une femme. Pourtant, Emma Puma, les contributions féminines en astronomie ont souvent été invisibilisées.
Quand on doit citer un astronome historique au hasard, on pense le plus souvent à des hommes. Galilée, Copernic ou plus près de nous par exemple, comme Hubble. Yael Nazet, astrophysicienne FNRS à l'Université de Liège.
C'est compliqué, on connaît assez peu finalement les femmes qui ont fait de l'astronomie, je dirais même les femmes savantes en général, hein, quand on doit citer à part Marie Curie.
Cette moindre contribution s'explique d'abord par l'accès limité aux connaissances en astronomie, un domaine qui a longtemps été peu enseigné aux femmes. Mais le défi majeur reste de faire reconnaître son travail à sa juste valeur.
Celles qui travaillent, bah, souvent, vont être un petit peu mises sur le côté, ou on va considérer qu'elles sont là un peu comme un esclave dans le coin et que c'est normal de profiter de leur travail.
Braille, par exemple. Le fameux astronome danois qui fit construire l'observatoire d'Uraniborg avait une sœur, Sophie. C'est avec elle qu'il élabora divers catalogues de positions planétaires qui permettront plus tard à Kepler de découvrir les lois relatives au mouvement des planètes autour du Soleil. Mais la chercheuse pointe aussi des cas plus malheureux.
Jocelyn Bell, qui n'a pas reçu le Nobel pour sa découverte, c'est son patron qui l'a eu, alors que le patron était un peu, on va dire, le bâton dans les roues pendant toute sa recherche.
Recherches qui ont pourtant mené à la découverte des pulsars.
Des objets compacts, extrêmement particuliers, qui sont de merveilleux tests tant pour la physique quantique que pour la relativité générale et qui sont des objets extrêmement scrutés à l'heure actuelle.
La féminisation de la communauté astronomique s'éternise. En Belgique, seuls 17% des astronomes professionnels sont des femmes.
Merci Emma, mais ne partez pas trop vite. Vous avez également eu l'occasion de vous pencher sur la programmation musicale du Reflector. Cette fameuse salle de concert de la place Xavier Nogent accueillera 4 concerts de mercredi à dimanche. De quoi ravir les amateurs de musique live. My forces need an act, but that's just what I
thought. Premier à ouvrir le bal, les Naïve New Beaters débarquent le 12 février avec leur nouvel album, un cocktail explosif de pop et d'électro qui coule comme du champagne sur le dance floor. Depuis plus de 15 ans, le trio franco-américain enchaîne les morceaux survoltés et les concerts énergiques. Changement de décor vendredi avec Bon Enfant, le groupe de rock québécois revient avec un nouvel album aux sonorités bariolées. Entre folk rock psychédélique, pop lumineuse et élan glam, on y retrouve aussi les thèmes chers du groupe, affirmation de soi, amour de la musique et amour tout court. Je suis heureux. Hey. 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 Ouais, mais moi, je suis heureux. Ouais, non, samedi soir, ce sera au tour du rappeur Dizzy's. Depuis plus de 20 ans, celui qui se faisait appeler La Peste n'a cessé de se réinventer. Loin du rap brut de ses débuts, l'artiste signe un nouvel album aux explorations plus introspectives et mélodiques. With you, everything feels brand new. Dimanche enfin, J. Bernard viendra clôturer cette semaine intense. La moitié du duo Balthazar, l'un des groupes de rock alternatif les plus appréciés en Belgique, présentera son dernier album, une œuvre dramatique et colorée dans laquelle le chanteur explore toutes les phases d'une rupture.
Ce soir, à l'affiche des barrages de la Ligue des Champions, c'est Manchester City qui reçoit le Real Madrid à l'Etihad Stadium. Un match dans le match entre les trois diables Thibaut Courtois pour le Real d'un côté et Kevin De Bruyne et Jérémy Doku pour City de l'autre. Raphaël Collignon a été éliminé dès le premier tour de l'Open 13 Provence à Marseille. Le numéro 3 belge a perdu en 2-7, 6-3, 6-4 contre le Serbe Ahmad Menjekovic, âgé de 21 ans. Le match a duré 1 heure et 27 minutes. C'est déjà la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Belle journée à tous sur 48 FM.